tout roule.
De quoi tu te mêles?
Des moules cuisinées à la marinière ou au beurre, ail et persil. En ce moment, elles sont à 3,59€ les 600 grammes au lieu de 4,99€. Moins 28%.
3,59€ les moules.
Lidl va déplacer les foules avec ses moules.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 5,98€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au dimanche 12 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Il est 11h en direct sur Sud Radio.
Parlons vrai.
Et tout de suite, les infos avec vous, Vénétin. Bonjour, bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Emmanuel Macron entre la place Clémenceau et l'Arc de Triomphe en ce moment à l'occasion du 79e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai qui marque la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, une cérémonie présidée par le chef d'État qui doit raviver la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Le président de la République qui s'envolera ensuite cet après-midi vers Marseille puisque c'est aujourd'hui que doit arriver la flamme olympique sur le sol français. Transportée depuis la Grèce jusqu'au Vieux-Port par le Belém, le 3 mai sera le centre d'une grande parade nautique, une armada d'un millier de bateaux va l'escorter jusqu'au débarcadère. Une grande soirée festive est prévue ce soir dans la cité phocéenne. À la une de l'actualité également aujourd'hui, les températures qui continuent de grimper dans le monde. Le mois d'avril a battu son record de chaleur avec une température moyenne d'un peu plus de 15 degrés. C'est 1,5 degré de hausse par rapport à la normale. Depuis juin 2023, tous les mois ont battu leur record mensuel. Bientôt la lumière au bout du tunnel à l'issue d'un chantier qui aura pris 12 ans de retard. L'ASN, le gendarme français du nucléaire, donne son feu vert à l'EPR de Flamanville. Les équipes d'EDF vont pouvoir commencer à charger le combustible dans le réacteur nouvelle génération construit dans la Manche. La production électrique se fera progressivement à partir de cet été avant d'atteindre sa pleine puissance en fin d'année. Des fans de Taylor Swift au comble de la joie, alors que la star planétaire doit donner un concert à Paris demain à l'Accor Arena. De nouvelles places ont été mises en vente à quelques heures du rendez-vous. Des places réservées aux fans qui s'étaient inscrits sur liste d'attente et qui vont donc pouvoir voir de près leur idole. 45 000 personnes sont attendues au concert demain. Et puis on connaîtra ce soir l'affiche de la finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid reçoit le Bayern Munich pour le dernier match retour de ses demi-finales. À l'aller, les deux clubs s'étaient quittés à égalité de partout. Le vainqueur affrontera Dortmund, tombeur du PSG hier soir 1-0. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à tous.
Et tout de suite, les pronostics hippiques avec vous, Jean-Paul Delperrier. Bonjour, vous êtes à Lyon aujourd'hui, Jean-Paul.
Oui, Lyon-Paris plus précisément, puisque Lyon a deux hippodromes. Nous allons courir le Grand Prix de Lyon-Paris sur 2400 mètres, un départ prévu à 15h15. Vous retrouverez donc le résultat du quintet aux alentours de 15h20-15h25 sur sudradio.fr. 16 partants très souples avec le 9 Alerio devant l'As Kozaken Zippeld, 10 Girafe, 3 Héliopolis, 5 Utamaro, 16 Côté Jardin, 2 Canis. 6 Aster, 9 à 10, 3, 5, 16, 2 et 6. Notez à l'instant que le numéro 7 de Lorenzo de Medici a été déclaré non partant. À Chartres, réunion 3 course 4 pour ma sélection du jour. Le 6, Kirani des Noé.
Merci Jean-Paul Delperrier. Et les pronostics évidemment sont à retrouver sur sudradio.fr.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Mettez-vous d'accord, soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio avec mes invités Garen Schnorr-Okian, journaliste éditorialiste à Livre Noir, Jean-Claude Beaujour, avocat président du Forum Transatlantique, Alexandra Spinner, enseignante, et puis Mathieu Hauck, secrétaire général du Millénaire. Je me retourne vers vous, Jean-Claude Beaujour. Aujourd'hui, votre coup de cœur, eh bien, c'est pour le rapport Larcher sur les institutions.
Oui, alors, évidemment, le président Larcher a remis au bout d'un an et demi de travail un rapport sur l'évolution des institutions, mais je voudrais juste, et ça fait le pendant avec ce que nous avons abordé tout à l'heure, le statut des élus locaux et notamment de ceux de plus petites communes. Et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un sursaut parce qu'aujourd'hui, vous avez jusqu'à, par rapport à la mandature qui a débuté en 2020, dans certains départements, jusqu'à 10% des élus locaux ont renoncé à leur mandat. On disait tout à l'heure que c'est un échec échec collectivement, mais c'est un échec pour la démocratie. Et je crois qu'aujourd'hui, où la parole politique est démonétisée, il faut tout faire pour que l'élu local soit en mesure d'exercer ses responsabilités. Et notamment, moi, ce que je souhaiterais qu'il y ait une vraie professionnalisation de l'élu local.
Il y a une loi en ce sens-là qui a été déposée sur le statut de l'élu.
Alors, vous avez raison de dire qu'il y a des textes qui sont déposés, mais maintenant, il faut que nous y allions, c'est-à-dire qu'il faut donner les moyens matériels aux élus locaux, aux petits élus d'avoir un mandat, éventuellement d'imaginer une évolution de carrière, parce que ce sont finalement ils concourent à l'exercice d'une mission de service public, donc que ce soit décompté et qu'on aménage une évolution de carrière à un moment donné, parce que autrement on a que soit des professionnels libéraux, soit des retraités, soit des gens qui
vous aimeriez qu'ils soient vraiment qu'ils aient un salaire, parce que là ils sont indemnisés,
puisqu'on est là pour tout se dire, arrêtons cette hypocrisie. Lorsque vous donnez à un élu, quelqu'un qui va consacrer trois quarts de son temps, parce qu'on vient de le dire, élu local, c'est vous êtes il y a une pharmacie qui a été violentée dans la nuit, vous êtes dérangé à 3h du matin, il y a une personne qui n'est pas très bien, on vous téléphone, monsieur le maire, monsieur le conseil municipal, il y a tel sujet. Donc c'est un boulot quasiment à plein temps. Vous ne pouvez pas donner 700, 800, 1000 euros à quelqu'un.
Vous êtes généreux, dans les petites communes, c'est pas ça.
Mais c'est pour ça que je vous dis, je dis cela pour ne pas rentrer dans tous les détails, pour donner un ordre de grandeur. Il faut arrêter cette hypocrisie. Nous avons vécu, notre système a été mis en place à une époque où les structures étaient plus petites, où les besoins étaient plus simples. Aujourd'hui, l'élu a non seulement des obligations liées à sa fonction, et on voit à quel point il est sollicité, mais en plus il y a la question de la responsabilité pénale. L'élu est mis en cause, et il y a le principe de précaution qui fait que si vous n'avez pas anticipé telle ou telle chose dans une cour d'école, on vous dit mais qu'a fait le maire. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut remettre à plat. Il faut arrêter de penser qu'on peut travailler gratuitement, parce que si on veut effectivement que le plus grand nombre de nos concitoyens puissent exercer ce type de responsabilité, eh bien il faut accepter de payer nos élus, et ça n'est pas dépenser de l'argent public en plus que de le faire, parce qu'on trouve aussi des budgets pour d'autres choses. Il serait bien que la démocratie se donne les moyens de fonctionner.
Garène, vous êtes d'accord?
Je suis pas entièrement d'accord, parce que je pense que la politique doit rester un sacerdoce et une mission. J'ai cette image de la grandeur de la politique. Il faut l'être. On s'est battu pour cet idéalisme. On s'est battu pour que l'élu soit quelqu'un qui fasse ça par dans un certain sens du sacrifice. Mais il y a une autre question aussi, surtout, c'est. Et vous dites ça va pas.
On parle pas des ministres.
On parle des élus locaux. Et il y a quand même un problème, c'est il y a pas de budget, il y a pas d'argent. La suppression de la taxe d'habitation a quand même beaucoup attaqué les budgets au niveau local. On est dans un pays où on est quand même à 1000 milliards de dettes par an quasiment supplémentaires. Il y a un moment où il va peut-être falloir arrêter de faire de la dette pour des choses qui seront peut-être pas forcément nécessaires.
Payer les gens pour faire le job
c'est faire de la dette. C'est économiquement faire de la dette. Bon. Et c'est endetter encore plus au niveau local des mairies qui sont déjà très très grévées. Il y a très peu d'argent aujourd'hui dans les petites mairies. Je suis désolé. Ou alors on va faire peser ça sur les régions dont les budgets diminuent aussi parce que l'État coupe les budgets des régions. Il y a un moment, l'argent magique, ça n'existe pas. On va pas faire pousser sur l'arbre à argent. À moins de vouloir encore faire exploser encore plus la dette de la France, qui est quand même monstrueuse. On est à 3000 milliards de dettes aujourd'hui. Le budget de la dette est aujourd'hui le premier budget de l'État. À un moment, on va peut-être falloir penser à arrêter de dépenser de l'argent et à distribuer et à promettre gratuitement de l'argent à tout le monde.
Plutôt faire des transferts de budget.
Ce que je trouve surprenant, vous me dites que des gens travaillent quasiment à plein temps. Ouais. On les fait travailler gratuitement ou quasiment gratuitement au motif prix qu'on ne peut pas les payer. Alors je vais vous dire une chose.
Et personne ne les a forcés à y aller.
Mais il faut bien des gens pour faire le job à un moment donné.
Il faut bien qu'ils soient là.
Oui, donc raison de plus. Alors que si vous employez quelqu'un, si vous avez quelqu'un qui travaille chez vous et que vous ne la payez pas, même si elle ne veut pas être payée, c'est du travail au noir. et vous êtes sanctionné pour cela.
Sauf si qu'il y a le statut bénévole en France aujourd'hui aussi.
Vous ne pouvez pas, et vous voyez à quel point le statut bénévole est très remis en cause par les URSSAF. Donc arrêtons de se arrêtons de se dire qu'il y a un siècle ou deux siècles, eh bien c'était du sacrificiel. Non, le risque, c'est que vous n'aurez qu'une petite minorité qui peut se le permettre, et ça n'est pas sain pour la démocratie. Je suis désolé, un maire aujourd'hui, il a une charge considérable. Vous ne pouvez pas demander aux gens de travailler gratuitement, sans carrière, sans protection sociale, avec une retraite. Et quid de la retraite, par exemple? Vous trouvez ça normal?
Moi, je vous dis avec quel argent?
On va faire réagir aussi Alexandra Spinner et Mathieu Hawk sur, donc, je rappelle, votre coup de cœur de départ. Hein, c'est Gérard Larcher qui a présenté donc 20 propositions de groupe de travail sur justement ce statut de l'élu local. Il voudrait le renforcer pour éviter la crise des vocations. Alexandra Spinner, on doit les payer plus, les maires, la solution passe par là?
Je pense que l'aspect financier, finalement, n'est qu'un aspect secondaire, pardon de le dire. Je pense qu'il faut effectivement revaloriser le statut des élus locaux, qui sont des héros du quotidien, de le dire, je sais que ça
et
fait un petit peu
très emphatique, mais
c'est, oui, évidemment, très populaire. Donc oui, je pense qu'il faut revaloriser leur statut, il faut que la République leur fasse confiance, il faut que la République les protège.
Commençons par ça, je pense. Ce sera plus important.
L'aspect financier ne doit pas être un tabou non plus, parce que vous savez, sinon, décidons qu'il n'y a que les riches qui font de la politique.
Mais bien sûr, pardon, je vais très loin dans le raisonnement. Alexandra, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont pendant longtemps, et ça existe encore, on a un emploi, mais on vous dit ok, va faire ton travail d'élu, donc en fait qui débarge peu, et c'est sanctionné, des emplois fictifs sont sanctionnés.
Et encore une fois, nous sommes bien d'accord, on ne parle pas des ministres, on ne parle pas
des maires des grandes villes non plus.
Justement, c'est pas ça la clé, il n'y a pas trop un fossé entre les privilèges qu'ont les ministres, les présidents. Donc, ils vivent dans les palais de la République, les chauffeurs,
Tout à fait. Non, mais la question que vous posez, c'est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas justement deux cultures politiques, une culture, on va dire, au niveau national, députés, ministres, etc., qui justement.
France d'en haut et la France d'en bas.
Qui ont des avantages qui sont considérables. Et une culture d'élus locaux, mais d'élus locaux, il faut bien rappeler, de municipalités dans les petites, dans les territoires périphériques, et dans la France périphérique et dans la France rurale. Et c'est ça le vrai problème de la crise démocratique aujourd'hui, c'est que ces gens-là aujourd'hui, ce sont des gens qui sont, comme l'a dit madame, ce sont des gens qui sont en première ligne de l'ultra-violence de la société, qui sont en première ligne de la crise de l'autorité dans notre pays et qui ne peuvent pas incarner l'autorité parce que vous avez des jeunes et des moins jeunes qui se permettent d'insulter des maires, qui se permettent de les agresser, qui se permettent de les violenter. Donc ça, c'est le premier problème. Et à côté de ça, vous avez un millefeuille administratif, et c'est ça aussi peut-être le problème qu'il y a sur la question, justement de la rémunération des élus. La rémunération des élus, c'est un micro-budget dans les budgets de fonctionnement des collectivités territoriales. Mais par contre, la question, c'est qu'il y a beaucoup d'élus qui sont liés au fait, parce qu'on a une surcharge administrative.
Absolument.
Liée à un millefeuille administratif très compliqué, avec les régions, les départements, les intercos et les communes. Et vous avez des gens qui cumulent un certain nombre de mandats locaux qui, justement, ne permettent pas d'avoir une action pleine et entière consacrée à la vision de ce que doit être le maire en France, c'est-à-dire un élu de proximité qui garantit, justement, la sécurité, la tranquillité et le bon cadre de vie de sa commune.
Restez avec nous, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de vos coups de cœur et vos coups de gueule.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau.
Sud Radio, la radio du rugby. Cette semaine, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 2000 euros pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs et hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. Profitez d'équipes dévouées, des clubs pour les enfants de 4 mois à 17 ans, des repas où vous n'aurez qu'à vous mettre les pieds sous la table et des animations pour tous. Bonnes vacances avec Sud Radio. Parlons vrai.
Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Eco Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 euros seulement, osez Eco Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Eco Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver.
Sud Radio H. 102. Sud Radio.
Il était une fois, une boucle d'or ne pouvant s'empêcher de tout goûter avant de se décider. Heureusement pour elle, les produits de marque Aldi sont testés, goûtés et regoûtés des milliers de fois pour garantir une meilleure qualité. Et désormais, la jeune femme sait où faire ses courses les yeux fermés. Oui, enfin, doucement, faudrait pas non plus cogner dans les rayons. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Infos sur aldi.fr.
Là, vous entendez? Et vous pensez à Leroy Merlin en grattant mollement la peinture qui s'écaille sur le banc de votre jardin. Mais là, quand je dis que jusqu'au 14 mai, les peintures de la gamme multimatériaux V33 2 litres sont à 39,90€ au lieu de 49,90€, soit 20% de remise, là vous grattez carrément tout le banc. Le portail, les volets, et c'est parti pour tout repeindre.
Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Soit 19,95€ le litre.
Vous valez des essuie-glaces gratuits? C'est en ce moment chez Carglass. Et oui, jusqu'au 10 mai, si vous faites réparer votre impact ou remplacer votre pare-brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glaces Bosch. Vous avez bien entendu, vos balais Bosch gratuits. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, prenez rendez-vous sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Ça c'est Manu, qui a vu la nouvelle offre quantité limitée chez Bricoman. Et c'est qu'il a raison d'être pressé. Le revêtement de sol stratifié AC5 10 mm décor chêne naturel est à seulement 10,49 euros le mètre carré. Oui, 10,49 euros le mètre carré. Alors on se dépêche d'aller chez Bricoman. Bricoman, pro avec un grand M. Offre limitée à 9 256 colis de 1,73 mètre carré, soit 18,14 euros le colis à partir du 7 mai dans les magasins dépôt Bricoman jusqu'à épuisement des stocks.
Grand frais.
Bonjour, c'est le traiteur. Alors, pour votre cérémonie de demain, je peux pas? J'ai grand frais. Ils ont de savoureuses myrtilles bien parfumées, comme je les aime. Bon, en commençant à préparer les toasts maintenant, ça devrait le faire pour vos 300 invités. C'est bien ça, hein?
Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à jeudi, les myrtilles sont à 80 centimes les 100 grammes. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 7,99 euros le kilo. Origine selon arrivage précisé sur le lieu de vente. Magasin ouvert ce mercredi 8 et jeudi 9 mai de 9h à 13h. Liste et horaires sur grandfrais.com.
Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Mettez-vous d'accord avec mes invités ce matin. Karen Schnorokian, Jean-Claude Beaujour, Alexandra Spinner, Mathieu Hawk. Je me tourne vers vous, chère Alexandra, avec votre coup de gueule contre le renvoi d'une salariée pour 1 euro.
Oui, alors coup de gueule parce que j'ai été sidérée, je crois qu'on a tous été émus par cette histoire. Donc une dame pipi, hein, je trouve que c'est un terme qui n'est pas péjoratif, une dame pipi qui travaillait donc dans une à la gare Montparnasse et depuis plus de 6 ans, elle a 53 ans et elle vient d'être licenciée par la société To The Tool. Hein, il faut la nommer parce qu'il faut aussi assumer ses responsabilités, qui est une société sous-traitante de la SNCF. Alors donc elle a pris 1 euro qui lui avait été laissé par un passant. Et donc c'est là qu'on apprend qu'elles sont donc surveillées, puisque c'est la raison pour laquelle elle a été licenciée, sans aucun préavis, sans entretien préalable. Elle a été, selon ses propres dires, puisqu'elle a témoigné sur France 2, je ne sais pas si vous avez vu son témoignage, il était assez émouvant, elle a été jetée comme un Kleenex. Voilà.
Mais pour quel motif ?
Parce que donc cette société To The Tool stipule qu'il n'est pas autorisé de prendre les pourboires. Alors on peut l'entendre.
Ah bon, on marche sur la tête.
Oui, on marche évidemment sous la tête et sur la tête. Elle a raconté son quotidien de femme de ménage dans ses toilettes de la gare Montparnasse, qui, vous l'imaginez, est quand même très difficile. Mmh. Vous imaginez les difficultés qui seront les siennes pour retrouver un travail. Alors, je sais bien qu'il faut distinguer le droit de la morale. Elle va évidemment aller devant les prud'hommes. J'espère qu'elle va gagner. Mais vous voyez, c'est en fait dans notre actualité surgissent régulièrement des femmes et des hommes qui disent tout de cette France qui souffre, de cette France invisible, de ces colombes, de ces sans dents méprisés par François Hollande, de ces gens qui ne sont rien, méprisés par l'actuel président de la République. Et oui, elle m'a beaucoup émue parce que c'est totalement surréaliste.
Mais on n'a pas le droit déjà de prendre des pourboires, ça c'est étonnant.
Apparemment, c'est la charte, enfin c'est
le règlement intérieur
de cette entreprise.
Intérieur.
Dès lors qu'il n'est pas contraire à l'ordre public, il reste valable.
Donc là, elle a accepté 20 euros de pourboire. Et...
Un euro. On parle d'un euro.
Oui, c'est vrai que c'est...
Alors, apparemment, ce contrat prend fin en 2026. Moi, je ne peux qu'espérer que la SNCF ne le renouvelle pas et que peut-être elle ajoutera un minimum d'humanité dans le cahier des charges de leur prochain appel d'offres. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, vous savez, on a dans le droit français la condamnation à 1 euro symbolique. Mmh. Eh bien, pour cette société To The Tool, c'est l'euro du déshonneur.
Mathieu Hawk.
Oui, effectivement. Réaction. La réaction, elle est, je pense, comme tout le monde autour de ce plateau, elle est évidemment très sincère vis-à-vis de la personne qui s'est fait licencier de manière abusive. Là, on est clairement dans un phénomène de licenciement abusif. Moi, ce qui me marque beaucoup sur ce sujet, et il y en aura beaucoup d'autres, et on va les commenter à la suite dans l'émission, c'est la culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on est, que ce soit au niveau des responsables politiques, que ce soit au niveau des chefs d'entreprise dans certaines entreprises, on est capable de licencier des gens qui ont soit profité de largesse ou soit qui ont même fait une erreur, on est capable de les licencier alors qu'ils ne représentent rien finalement et qu'ils n'ont pas fait de mal, on est capable de les licencier. Alors que par contre, quand on est au plus haut sommet...
Ils représentent tout.
Exactement.
Ils sont les artisans de tout ce qui permet
la France la crise sanitaire.
C'est la France invisible.
Tous ces gens-là qui ont justement fait tenir la France. Et ce sont ces gens-là que les élites méprisent au quotidien à travers ce phénomène de culture d'irresponsabilité.
Alors, il n'y a pas que les élites qui méprisent, parce que là, pour le coup, le responsable des ressources humaines de cette entreprise, c'est
To The Tool. Il faut les nommer. Il faut aussi que les gens assument leurs responsabilités.
Ce ne sont pas, entre guillemets, c'est pas l'élite au sens où on en parle. C'est qu'effectivement, on est dans une société où d'inhumain, de sauvage, où chacun dans la fonction dans laquelle il est, se croit autorisé ou n'a même plus se croit autorisé à faire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas d'humanité. Et là, par exemple, il n'y a pas de proportionnalité. Parce que c'est une chose que de constater qu'une personne violerait de manière régulière, récurrente, etc., un règlement intérieur, qu'il y aurait eu un avertissement, etc., etc. C'est autre chose pour un euro de licencier une personne, même si c'était visé au règlement intérieur de l'entreprise. Il y a une disproportion, et j'imagine que le Conseil des prud'hommes sanctionnera la disproportion.
Là où je
reviens juste un point avec Alexandra, et qui est très juste, moi ce que je souhaiterais, c'est qu'il n'y ait pas simplement un euro de dommage intérêt. C'est pour que ces choses ne se reproduisent pas.
Mais d'accord.
Alors, je ne vais pas ouvrir la boîte de Pandore, mais il y a un moment où il faut que les sanctions punitives soient très lourdes, pour qu'on soit découragé. Parce que le problème, c'est que la personne qui avait ça à l'entreprise va être coupée de quelques centaines, quelques milliers d'euros.
Ce sera surtout au prud'homme que ça va régler ça.
Mais tout cela ne dissuade pas. C'est une question que je mets en débat. C'est dans ce type de circonstances, si les conseils des prud'hommes, sans en arriver au dommage punitif que l'on connaît aux États-Unis, mais si le conseil des prud'hommes condamnait par exemple à des sommes sévères pour procédure abusive, pour, par exemple, au titre de ce qu'on appelle l'article 100, les 700, les frais d'avocat, mais des choses significatives pour décourager, parce qu'en réalité, vous avez signalé le cas de cette dame, et bien demain, il y en aura d'autres et on en voit tout le temps.
Mais vous savez aussi qu'on ne va pas dans ce sens-là. On va vers davantage de flexibilité dans les contrats.
La flexibilité dans les contrats peut aller de pair avec un minimum d'humanité. Parce que là, on est quand même dans les dérives d'un système qui se fout totalement des salariés. Vous savez, par exemple, on pourrit la vie des chefs d'entreprise avec un millefeuille de complications bureaucratiques, de réglementations, une réglementation nouvelle chaque jour, à peine a-t-on le droit de s'habituer à une réglementation que surgit une nouvelle réglementation. Et parallèlement à ça, on a une entreprise néerlandaise qui sous-traite la gestion des toilettes des gares parisiennes pour la SNCF et qui a des pratiques totalement d'un autre siècle.
Alors le PDG de la SNCF n'ira pas non plus, il va aller au prud'homme aussi, certainement.
Pardonnez-moi, mais ce que dit Alexandra, c'est très juste. Elle vient de dire l'entreprise
entreprise néerlandaise. En d'autres termes, celui qui est au-dessus donne des instructions. Oui. Il est très loin. Et en fait, on met la pression sur toute la chaîne. On parle de développement durable. Parlons de développement durable. On est tout au-dessus. On prend des décisions. On met la pression sur toute la chaîne. Et parfois, parce que j'imagine que le RH peut-être vous dira, moi, on me met la pression pour que je fasse telle et telle chose. Et c'est là aussi où il faut qu'on se pose la question.
Mais c'est surtout que cette femme peut-être était seule, parce que là, je faisais une allusion à Jean-Pierre Farandou qui n'ira pas au-delà des vous le savez, hein, des JO, parce que le gouvernement estimait qu'il avait peut-être été un peu trop tendre sur l'accord justement conclu par les syndicats de la SNCF. Il y a toujours ce deux poids, deux mesures. Il y a des, vous voyez, là, en l'espèce, les syndicats, manifestement, ont été très puissants, ont obtenu des accords qu'ils n'auraient peut-être pas dû recevoir. En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup de Français, hein, n'est-ce pas?
SNCF, les syndicats, de toute façon, font de la politique. C'est-à-dire qu'ils ne font pas aujourd'hui de la défense des droits des salariés. Ils obtiennent des accords, ils obtiennent des deals avec le gouvernement, avec le patron de la SNCF, avec la haute direction de la SNCF, mais ils ne s'occupent jamais des conditions de travail de leurs salariés, ils s'occupent jamais des conditions de travail de leurs collègues, et c'est bien ça le problème à la SNCF.
Ils sont très bien payés à la SNCF
grâce aux syndicats. Font qu'à chaque fois qu'ils font grève, ils ressortent avec une augmentation de salaire, avec des avantages en nature, des 13e, des 14e mois. Moi, je suis absolument pour la privatisation de la SNCF. Il faut arrêter avec ce délire des syndicats qui, à chaque vacances de Noël, à chaque vacances d'été...
Vous dites qu'ils font de la politique, ils font surtout du chantage.
Oui,
enfin, il faut dire les choses.
Mais parce qu'ils ont des gouvernements qui
tolèrent
la situation de monopole.
C'est pour ça que, pardon de dire des gros mots, mais peut-être qu'un jour, il faudra songer à la privatisation
Il faut le faire le plus vite possible, parce que les billets de train...
Parce que cette culture du blocage, elle est insoutenable, insupportable.
Avec le coût du transport qui est prohibitif, et le service n'est pas toujours au rendez-vous.
D'ailleurs, où est le ministre des Transports? Parce que je n'ai pas beaucoup entendu, ça le concerne un petit peu tout cela, non?
Alors, ils ont fait porter le chapeau. Ça vous a choqué, justement, ce futur... cette future non-reconduction de Jean-Pierre Farandou?
Alors moi, je ne vais pas juger sur de la reconduction ou non du PDG de la SNCF. En revanche, ce qui me choque, c'est qu'on a ici un gouvernement qui n'est jamais comptable de ses propres échecs. C'est-à-dire qu'ils sont, contemplateurs du naufrage qu'ils occasionnent. Notre pays a été bloqué complètement par cette réforme des retraites, qui certes était nécessaire, mais... Voilà, quand même, ça a coûté beaucoup de blocages, beaucoup de conflits, pour finalement que à la SNCF, il y a une espèce de régime spécial et qu'ils puissent se dédouaner de cette loi qui était censée être la grande loi de Monsieur Macron.
Je voudrais préciser une chose sur la SNCF, c'est que c'est une entreprise privée détenue à 100% par l'État. Voilà, faut juste préciser que c'est pas une entreprise publique à proprement parler, mais quand on est détenu à 100% par l'État, on est de fait une entreprise publique.
Et ce qui me choque beaucoup, vous voyez, on parlait de responsabilité tout à l'heure. Vous pouvez pas me faire croire que ces accords n'ont pas été approuvés par des ministres, ou alors c'est extrêmement inquiétant. Les macronistes revendiquent l'amateurisme, mais dans ces cas-là, c'est vraiment...
Il faut être sérieux, on ne peut pas imaginer...
On va marquer une petite pause.
Je vous la redonnerai
tout à l'heure, c'est promis. Jean-Claude Beaujour, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ils les font à 4,99€ le kilo.
Les tomates cerises?
Eh oui, en ce moment, le colis d'un kilo de tomates cerises est à 4,99€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et avec l'application Lidl, il y a moins 10%, soit 4,49€ le kilo de tomates cerises.
On va voir rouge, on est mal.
Bah, tout rouge, hein, et très mal.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Sud Radio Corté.
99.6.
Sud Radio.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Dans mon dictionnaire, ils mettent concombre, légume apprécié pour sa chair croquante et rafraîchissante.
Oui, et ?
Et c'est incomplet, parce que c'est concombre français, légume apprécié pour sa chair croquante et rafraîchissante.
Vous avez raison. Et pour son prix. Car du 7 au 11 mai chez Leclerc, les concombres Origine France sont à 1,16€ le lot de 2. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 58 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
C'est parti pour les économies avec Monsieur Bricolage. Aujourd'hui et jusqu'à samedi chez Monsieur Bricolage, recevez 15 euros en bon d'achat sur tout le magasin, tous les 100 euros d'achat.
Vive les économies !
Mais seulement avec la carte Monsieur Bricolage.
Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul.
Conditions et magasins participants sur monsieurbricolage.fr.
Estimation du temps de trajet. Calcul en cours. Calcul en Je n'y arrive pas. Comment avez-vous passé le péage si vite ? J'hallucine, grave.
Avec le pass Ulysse, passez au péage sans attendre pour 2 euros par mois. Et zéro si vous ne l'utilisez pas.
Ulysse, et c'est réglé.
Voir conditions sur ulysse.com.
Que vous soyez plutôt chien, plutôt chat, lapin ou même poule, tout ce qui compte pour nous, c'est que vos animaux et vous soyez heureux. Avec l'application Maxiso, profitez de centaines de réductions sur ses produits préférés, de conseils d'experts pour prendre soin de lui, commandez en ligne et retrouvez même l'historique de vos achats directement dans l'appli. Alors foncez, téléchargez gratuitement l'application mobile Maxiso et ne ratez plus aucune occasion de faire des économies. Chez Maxiso, nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux.
À tous ceux qui... Je reprends. À tous ceux qui... Il n'y arrive pas aujourd'hui. Bon, alors attends. À tous ceux qui auraient bien besoin d'un bon café. Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon café en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Mettons-nous d'accord, mettez-vous d'accord avec mes invités ce matin, Karen Chenoir-Occhian, Jean-Claude Beaujour, Alexandra Spinner, Mathieu Hawk. Mathieu Hawk, justement, votre coup de gueule contre vous, la politique étrangère d'Emmanuel Macron.
Alors effectivement, donc les deux derniers jours ont été consacrés à la visite de l'homme le plus puissant du monde aujourd'hui, le président Xi Jinping, donc qui était en visite à l'Élysée puis dans les Hautes-Pyrénées. On a assisté encore une fois à une nouvelle visite d'un grand leader de ce monde où le président de la République a plutôt soigné la forme que le fond. Et c'est bien là le problème parce que depuis 2017, la France a été humiliée successivement sur la scène internationale justement à cause d'une politique de coup d'éclat au lieu de traiter les problèmes de fond. Sur la Chine notamment, le président de la République a mis en avant deux grands sujets qui étaient clés et sur lesquels il voulait obtenir des avantages de la part du président Xi Jinping. Le premier point, c'est sur la politique industrielle, donc rééquilibrer les relations commerciales qui sont aujourd'hui très déficitaires, 65 milliards d'euros qui sont déficitaires vis-à-vis de la France en termes de commerce extérieur vis-à-vis de la Chine, et de les rééquilibrer avec une politique en obtenant des exemptions française et lui pense européenne en réalité de la part du président Xi Jinping, sauf qu'il n'a pas donné date à ces demandes d'exemption puisque la Chine a prolongé son soutien à sa politique protectionniste de soutien à l'industrie automobile verte, et donc nos acteurs économiques auront du mal à s'imposer vis-à-vis sur la construction de voitures électriques notamment, alors que c'est le grand projet du président de la République sur la transformation de l'industrie. Le deuxième sujet, c'est sur la guerre en Ukraine. Alors, sur la guerre en Ukraine, il y a encore moins d'avancées, puisque effectivement, il devait essayer de casser cet axe sino-russe qui n'arrive pas à casser. Toujours est-il que voilà, c'est un échec, en tout cas, sur la politique chinoise. Pourtant, le président de la Chine a en tête l'idée que la France est un pays gaulo-chiraquien avec une voix singulière dans ce monde. Cette voix-là, on ne l'entend plus aujourd'hui. On n'a pas entendu non plus sur un certain nombre d'autres sujets, puisque Emmanuel Macron a été humilié par Donald Trump le 14 juillet, la première visite du 14 juillet, où il avait demandé à Donald Trump de rester dans les accords de Paris sur le climat. Finalement, il l'a pas fait. On peut citer les relations avec Boris Johnson également. Il voulait un hard Brexit. Et finalement, le Brexit a pénalisé davantage les pêcheurs français que les Britanniques eux-mêmes. Donc, sur un certain nombre de sujets, je peux les multiplier. Au Sahel, on s'est fait marcher dessus par la Chine et par la Russie. Sur l'Indo-Pacifique, c'est pareil. Il n'y a pas de pays aujourd'hui avec lequel Emmanuel Macron a des bonnes relations. Peut-être le Canada, Justin Trudeau. Bon. Mais en tout cas, toujours est-il que voilà, la politique étrangère d'Emmanuel Macron est un échec depuis 2017.
Pourquoi finalement la Chine céderait aux demandes de la France? Franchement, elle ne fait pas tellement peur, la France, surtout, à la Chine aujourd'hui,
non ? Ce qui m'a le plus choqué pendant cette visite de Xi Jinping, c'est de voir que von der Leyen était tout le temps avec Emmanuel Macron. Oui. Et j'avais l'impression de voir un enfant avec sa maman qui le tenait par la main. Je vous rappelle que la France, c'est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne aujourd'hui. Aujourd'hui, la France, c'est la deuxième économie la plus puissante de l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir le président de la France qui se balade avec sa maîtresse, qui lui tient la main? Von der Leyen, je vous rappelle, n'est pas élue par les peuples européens. Elle est détestée à peu près partout en Europe. Quelle est la légitimité de cette femme d'accompagner Emmanuel Macron, le président de la France, qui est un pays souverain, je vous rappelle, sur tous les déplacements avec Xi Jinping? Je ne comprends pas, c'était honteux, cette image était extrêmement désagréable.
Votre réaction par rapport à Madame von der Leyen?
je ne la porte
en même
pas
temps,
dans
c'est
mon
avec l'Europe. Non, mais c'est avec l'Europe que la Chine traite. C'est pas avec la France en particulier.
On a quand même tous à cœur que la France reste un grand pays et n'a pas besoin
le
d'être
commun quand même. Avec
certes. Mais vous savez, la politique, c'est aussi des symboles.
Et oui. Voilà. Et ça, on peut en discuter, effectivement.
On peut évidemment en discuter, et je crois que moi, je crois profondément à l'idée que la France doit se tenir debout et exister, et l'Europe ne doit pas l'écraser, tout simplement.
Voilà. Ce que je réponds à ça, c'est que la France est dans l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a justement cette construction européenne, et c'est pas pour autant que le général de Gaulle ou que Jacques Chirac, ou même François Mitterrand à une époque, pouvaient obtenir des positions françaises et défendre les intérêts de la France. C'est pas l'Union européenne forcément qui bloque nécessairement. Là, en l'occurrence, on a un président de la République qui, justement, n'arrive pas à faire entendre la voix singulière de la France sur un certain nombre de sujets.
Mais sur quel argument, c'est ce que je vous posais comme question? Quel intérêt à la Chine d'écouter la France aujourd'hui?
Alors, moi je pense qu'il y a deux sujets qui viennent d'être abordés. Le premier, c'est est-ce qu'il s'agissait d'une visite bilatérale, visite d'État bilatérale, ou une visite européano-chinoise. C'est là où effectivement la présence de Madame von der Leyen m'interroge, parce que on a le sentiment que c'est une visite européenne. Bon. Si c'est une visite européenne, ou en tout état de cause, si on considère qu'il faut que la présidente de la Commission européenne soit présente dans des discussions bilatérales ou à raison des sujets, puisqu'il a beaucoup été question de la guerre en Ukraine, alors à ce moment-là, le vrai problème que nous avons, c'est quelle politique nationale par rapport à l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. Et c'est toute la complexité que nous avons, c'est une responsabilité de l'Union européenne, c'est d'arriver à avoir une politique cohérente qui soit une politique de l'ensemble des 27 et qui donc parle pour l'ensemble des intérêts de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Qu'on se mette d'accord sur ce que l'on veut. Parce que je veux vous dire, en réalité, les Chinois en jouent. Tantôt ils nous disent, moi je les connais un petit peu, tantôt ils nous disent, nous c'est important que nous avons de l'amitié franco-chinoise, etc. Mais dans le même temps, ils vont jouer de la rivalité entre pays européens. On se souvient de la relation particulière entre l'Allemagne et la Chine. Donc là, on a une responsabilité, nous Européens, puisqu'on est à un mois de l'élection du nouveau Parlement européen. Il faut qu'on se pose la question, et notamment ceux qui sont européens, à quel moment est-ce qu'on se met d'accord sur les grandes lignes? Alors évidemment, on peut avoir des points de divergence, mais les grandes lignes de notre politique européenne par rapport, par exemple, à la Chine.
D'ailleurs, il me semble qu'après, le Xi Jinping se rend en Estonie, en Hongrie, c'est bien ça? Ça dit quelque chose,
en termes de lecture, c'est un problème. Donc ça veut dire qu'après avoir vu Mme von der Leyen, il va dans d'autres États européens, et est-ce que ceux-ci vont avoir des messages différents? À ce moment-là, il aurait été intéressant d'avoir un vrai sommet Union européenne-Chine, et qu'on détermine, en tout cas pour moi c'est important, qu'on détermine notre position vis-à-vis des Chinois. Et il me souvient avoir redit à des amis chinois que nous restons toujours sur... c'est très bien qu'on ait une amitié, je crois en l'amitié franco-chinoise. Pour autant, nous, ce que nous attendons, ce sont aussi des résultats très concrets sur un certain nombre de sujets. Par exemple, le sujet de la réciprocité, par exemple, le sujet des normes, par exemple, les garanties qui sont données à nos entreprises avec la loi sur la sécurité nationale qui inquiète inquiète un certain nombre de nos entreprises françaises et européennes en postant Chine, par exemple.
Bah oui, mais si on ne va pas jusque-là, c'est parce qu'il y a l'Europe, justement.
Non. Alors, je vais vous dire, justement, c'est parce que l'Europe doit être sur ces sujets-là, elle doit être exigeante. Et là encore, je vous dis, moi, je redis à mes amis chinois, nous sommes amis, bien sûr, mais l'amitié, elle doit avoir du contenu. Ça ne peut pas simplement être
et
une
de
déclaration.
Et de la réciprocité aussi.
C'est pour ça que tu parles de réciprocité.
C'est un manque de fermeté, de la naïveté.
La Chine ne respecte que les pays forts.
Eh oui, bah comme la Russie d'ailleurs.
Comme la Russie, mais comme les États-Unis d'ailleurs. Bon, les États-Unis c'est un peu différent parce que si vous êtes trop fort, ils vous écrasent. Mais la Chine ne respecte que les pays forts. Aujourd'hui, on montre qu'on est faible. Comment est-ce que vous voulez que la Chine nous respecte ? Il y a aucune bonne raison.
C'était ma question depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a comme raison ?
Regardez par exemple les cyberattaques de la Chine et de la Russie. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on apporte une réponse ferme face à tout cela ?
On devrait avoir déjà des réponses diplomatiques qu'on ne fait pas. Vous savez qu'en réalité, quand on reçoit une attaque du gouvernement chinois sur nos systèmes de sécurité, on a le droit de convoquer l'ambassadeur de Chine, voire de renvoyer les ambassadeurs dans leur pays. Ça, c'est des mesures diplomatiques qui sont symboliques. En réalité, ça ne baisse pas les attaques, mais ça montre qu'on fait quelque chose.
Le problème, aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de la Chine aujourd'hui.
Mais on a besoin de tout le monde, j'ai l'impression.
Ces cyberattaques, c'est quand même une tentative de déstabilisation de nos démocraties. Je suis quand même très étonnée de nos démocraties.
Économique. Les Chinois, ils ne pensent pas de démocratie parce que pour eux, ça n'existe pas, ils s'en fichent d'ailleurs.
Il y a toujours les tentatives assez drôles, il faut bien le dire. On leur a parlé des droits de l'homme.
Ils s'en fichent complètement. C'était la blague qu'on avait sortie pour les JO en Chine. Eux, leur but est économique. Leur but, c'est la guerre économique parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, la guerre se fait de moins en moins avec des chars et des avions, mais de plus en plus avec des ordinateurs et des projets économiques. Aujourd'hui, le but de la Chine, c'est de devenir la première puissance mondiale. Ils sont déjà entre 1 et 2. Première et deuxième place des premières puissances économiques mondiales. Et donc quand même, faut pas exagérer, la Chine a quand même un pays avec une population très pauvre en moyenne, même si à Shanghai et à Pékin, il y a des populations riches. La Chine reste un pays pauvre, n'exagérons pas, au niveau de sa population, mais son but est de devenir la superpuissance mondiale. C'est pas en s'écrasant devant eux, à moins que notre but, c'est de devenir les vassaux de la Chine. Si c'est l'objectif de Macron, d'accord, il a très bien fait.
Aujourd'hui.
Moi, je pense que c'est pas simplement des vassaux de la Chine. Sur un certain nombre de sujets, vous voyez, mais il faudrait plus qu'une émission pour en parler. C'est qu'à partir du moment où nous avons un logiciel qui diffère, eh bien, on se met en danger. Je vais vous prendre un exemple. J'ai entendu dire par une personne d'un autre parti que la valeur repos était une valeur de notre système. Ben, je vais vous dire, moi, c'est ce que je dis aux jeunes. Si votre préoccupation à 20 ans, c'est exclusivement les retraites, les ponts et les repos, vous allez vous faire avoir. Parce que dans ces pays-là, je rentre d'Asie, je peux vous dire, ce que je constate dans tous ces pays, c'est qu'ils ont probablement beaucoup moins que nous, mais ils ont une rage de réussir et ils voient l'avenir positivement. Ce ne sont pas des blagues, ils voient l'avenir positivement. Moi, j'ai vu l'évolution de la Chine en 40 ans. J'ai été étudié en Chine au milieu des années 80, l'époque de Deng Xiaoping. Eh bien, quand nos professeurs nous disaient, nous avons comme objectif tels objectifs à échéance de 30 ans, avec nos copains, mes copains français, on rigolait, on se disait à échéance de 30 ans, ils ne seront jamais là.
Long terme.
Sauf qu'à 20 ans, ils avaient déjà réussi cette échéance. Alors, ça n'est pas une démocratie, mais ils se donnent ils se donnent leurs moyens. Je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur. Donc si nous ne nous disons pas européens, attendez, si on n'obtient pas cela, il y aura telle décision de prise et tout le monde va suivre cette décision, on est cuit.
Mais on n'est pas un peu trop gâté parce que ça...
Je pense aussi qu'il faut qu'on se réarme sur le plan économique et qu'on réarme. Oui, moral aussi, mais qu'on réindustrialise aussi notre pays. Parce que je vous rappelle quand même, sur un certain nombre de sujets, la France est totalement asservie à la Chine, notamment, regardez le problème des médicaments. On a une pénurie cruelle d'antibiotiques. On est complètement dépendant de la production chinoise. Ça n'est tout simplement pas acceptable quand on pense à la souveraineté nationale.
Ça veut dire, Alexandra, qu'il faudra, ce que vous prenez, c'est qu'effectivement, on ait un ministère, parce que c'est comme ça que ça se passe en Chine, on ait un ministère de l'industrie qui dise aux entreprises, voilà le cadre dans lequel vous pouvez évoluer et voilà le cadre dans lequel vous ne pourrez pas évoluer.
Nous, on a travaillé sur cette question-là. Effectivement, la Chine apporte un projet de réveil de nations empires, c'est-à-dire que justement, ils ont pour objectif d'être la première puissance mondiale d'ici 2049, puisque ce sera l'anniversaire des 50 ans de la rétrocession d'Hong Kong, justement. Et pour cela, ils se donnent l'objectif d'être une superpuissance sur l'ensemble des sujets économiques, technologiques, spatiales.
Ils sont partie, l'intelligence artificielle, ça fait 30 ans qu'ils y bossent. Madame von der Leyen, elle en a parlé en février.
Ils ont une stratégie cohérente, alors que la France et les Européens, aujourd'hui, on n'a pas de stratégie cohérente et on n'a pas non plus de stratégie vis-à-vis de la Chine. Aujourd'hui, il y a trois possibilités vis-à-vis de la Chine. Soit vous faites un alignement des valeurs sur le modèle américain, c'est-à-dire qu'on se dit on ne veut pas que la Chine soit la première puissance mondiale, le devienne, on veut rester dans le camp atlantiste américain. Donc ça, c'est le choix un peu porté par, on va dire, la droite libérale. Soit vous faites un deuxième choix qui est le choix un peu la Mélenchon, c'est-à-dire l'alignement sur le projet chinois et donc en fait une espèce d'anti-américanisme primaire et donc vous devenez pro-chinois et donc vous mettez dans la main des intérêts économiques chinois, un peu ce que fait finalement l'Allemagne d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dépendants économiquement de la Chine. Soit vous avez un troisième point qui est justement de faire notre projet de nation-empire d'une certaine façon, de réarmement sur l'ensemble des sujets industriels, économiques.
Donc je reviens à la question européenne.
Et surtout morale, parce qu'aujourd'hui, l'Occident a peur, et la France en elle-même a peur de ce que l'on est, on a peur de ce que l'on dégage, on a un sentiment de culpabilité très profond et on est incapable aujourd'hui de regarder droit dans les yeux la Chine, l'Inde, la Russie, etc. Parce que justement, nous-mêmes, on a peur de nous-mêmes et on est marqué par des courants politiques, des constructeurs qui veulent aujourd'hui déconstruire ce qu'a fait la grandeur de l'Europe.
Et Denis Jacquet, d'ailleurs, votre patron sera chinois, sera mon invité tout à l'heure. On en parlera à midi et demi. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants après une petite pause.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu que vous avez une tondeuse hybride en promo pendant l'opération beauté chez Leclerc.
Oui, tout à fait. Et c'est un super plan.
Ok. Et hybride, ça veut dire qu'on peut tondre les cheveux?
Oui, bien sûr.
Et la barbe?
Oui, aussi.
Et la pelouse?
Ah non, quand même pas. Mais pour les cheveux et la barbe, la tondeuse hybride Wall avec 13€ de réduction est à 24,90€ du 7 au 18 mai pendant l'opération beauté chez Leclerc.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Sud Radio Cagnes-sur-Mer
97.9
Sud Radio.
À moins de 100 km de Paris, poussez les portes de la Champagne. Découvrez un territoire préservé d'une richesse étonnante. Visitez ces incontournables vignobles classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Explorez le château médiéval et les trésors de l'Hôtel Dieu à Château-Thierry. Appréciez cette terre d'artistes riche en activités culturelles, comme la maison de Camille et Paul Claudel ou le château des Princes de Condé. Les portes de la Champagne, un territoire exceptionnel où se mêlent histoire, nature, vignobles et patrimoine. Préparez votre séjour sur lesportesdelachampagne.com.
On vous écoute, mademoiselle.
Merci, monsieur Géniaud. En ce moment, pour l'achat d'une véranda Rénoval, la TVA est offerte. Ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Conditions sur Rénoval.com.
Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez une interview avec Ophélie Meunier, animatrice star d'M6. Sylvie Vartan, elle revient sur sa carrière. Des nouvelles de la santé de Kate Middleton. Les coulisses du Festival de Cannes avec Camille Cotin et Léa Seydoux. Charlotte Gainsbourg, elle reprend sa vie en main. Gabriel Attal, un premier ministre qui veut agir. Journal de France, un magazine La Fond Presse, en vente chez votre marchand de journaux.
Durée du trajet, 2h12. 2h10. Enfin, disons 2h. Ce télépéage m'a perturbé. Après, l'erreur est humaine. Même si je ne suis pas humain, c'est ballot.
Avec le pass Ulysse, passez au péage sans attendre pour 2 euros par mois. Et 0 si vous ne l'utilisez pas.
Ulysse, et c'est réglé.
Voir conditions sur ulysse.com.
Vous voulez des essuie-glaces gratuits? C'est en ce moment chez Carglass. Et oui, jusqu'au 10 mai, si vous faites réparer votre impact ou remplacer votre pare-brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glaces Bosch. Vous avez bien entendu, vos balais Bosch gratuits. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, prenez rendez-vous sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron?
Il reste une part du gâteau?
De pizza patron. En ce moment, avec l'appli Lidl Plus, la pâte à pizza de 260 grammes est à 1,11€ et la deuxième à moins 50%.
1,66€ les deux pâtes à pizza? C'est royal?
Royal, napolitaine ou même ananas patron.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 4,27€ le kilo pour une pâte, 3,19€ le kilo pour deux. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
On se retrouve dans Mettez-vous d'accord, mettons-nous d'accord, mettez-vous d'accord, Karen, Jean-Kian, Jean-Claude, bonjour, Alexandra Spinner, Mathieu, Hawk, on va balayer un petit peu les grands sujets de l'actualité avec, bon, alors, pour commencer, quelque chose de plutôt sympathique, enfin, j'en sais rien, vous allez me dire d'ailleurs, la flamme, ça y est, la flamme olympique qui est arrivée, plus que 79 jours avant la cérémonie des JO, mais c'est presque parti, ça y est, la flamme est arrivée au bord du 3 mois Bellem au large de Marseille, elle sera allumée ce soir pour la première fois, Alexandra Spinner, c'est vous l'attendez avec impatience, c'est JO, c'est, vous alors, allez être devant la, votre télé ce
alors,
soir.
Écoutez, vraiment, moi je suis absolument contre le JO bashing. Je trouve que, alors je sais bien,
vous êtes contente, alors.
Oui, je suis très contente parce que
vous
notre pays, notre pays va être sous le feu des projecteurs du monde entier. On va être le cœur du monde.
C'est bien ça le problème.
Oui. Alors,
c'est bien ça.
Écoutez,
le problème.
Tout le monde se bat pour avoir les JO quand même. Ouais. Hein. Je veux dire,
on aura peut-être pas dû.
Mais écoutez, je sais bien que ça va. Il va y avoir un certain nombre de contraintes pour chacun d'entre nous. Dans des quartiers à Paris, ça va être particulièrement difficile. Peut-être que tout ça n'a pas été forcément bien pensé, mais c'est quand même extraordinaire. Paris va être la capitale mondiale du sport. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Je comprends pas qu'on puisse pas se réjouir collectivement. Et je trouve que ces images qui nous viennent de Marseille sont tout à fait magnifiques.
Bon,
on va avoir des sportifs.
D'accord.
Non, mais des sportifs paralympiques, par exemple, des gens qui au quotidien font des exploits incroyables et qui vont être mis à l'honneur. Moi, je trouve ça formidable. Vive les JO. J'espère qu'on va remporter de nombreuses médailles et qu'on sera les champions du monde. Voilà. Il est temps qu'on redevienne des champions du monde.
C'est merveilleux. La Terre entière va voir qu'on est devenu un pays du tiers-monde.
Oh, non, on ne pouvait pas dire ça.
Qu'on aura la médaille d'or des pickpockets 300 mètres courus. Qu'on va avoir la médaille d'or de l'agression crapuleuse à la sortie de l'aéroport. Qu'on va avoir la médaille d'or de violence gratuite parce qu'on l'a déjà aujourd'hui, mais la terre entière va voir que la France est devenue un pays du tiers-monde, violent, dangereux. Je n'ai aucun espoir que ça se passe bien, ces JO. Ces JO, on avait 5 ans pour les organiser. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour les annuler, pour éviter que la terre voie la déchéance de la ville de Paris.
À moins de déployer
deux policiers pour chaque touriste, je ne vois pas comment on va faire. Pour pouvoir sécuriser ces JO, ça va être impossible.
Moi, je suis très choqué.
Il nous avait plombé le moral.
Non, il ne nous a pas plombé le moral, mais c'est l'occasion de lui dire qu'on est très choqué par ses propos. Nous sommes autour de cette table très choqués par les propos de Karen. Pourquoi ? Bien sûr qu'on a des problèmes et qu'on déplore tous. On n'a pas envie de se faire dérober. On n'a pas envie d'avoir des pickpockets. Moi, je prends le métro. Je peux vous dire que c'est désagréable. Cela étant, il faut arrêter de dire que la France est devenue le tiers-monde. C'est ce contre quoi je lutte, je vais vous dire. Je refuse cet esprit négatif. Nous avons des sujets. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir ? Voilà. Si vous allez au Venezuela, si vous allez au Brésil, si vous allez en Afrique du Sud, si vous allez dans des tas de pays, même aux États-Unis, vous risquez des tas de choses. Non, notre pays n'est pas pire que ceux que je viens de citer.
Oui, c'est plus catastrophique, les pays que vous avez cités. Le Venezuela est une dictature communiste.
Mais attendez, vous pensez que c'est plus simple ? Vous pensez que c'est plus simple
en Chine ?
Vous pensez, au Japon ? Oui, il y a des caméras partout en Chine. Vous pensez que c'est plus simple ? C'est une exception,
dans
le Japon.
Dans les pays de l'Est de l'Europe ?
Non, non.
Celle qui n'a pas subi d'immigration massive ?
Si vous couvrez mon propos, je ne pourrais pas m'exprimer. Non, soyons sérieux. Nous avons effectivement un certain nombre de difficultés, mais moi, je veux pas dire à nos jeunes allez, il y a plus qu'à se tuer finalement. En vous entendant, on a l'impression qu'il faut sauter.
Je ne peux pas accepter non plus ce défaitisme. Après, on va parler de Sciences Po pour les 5 minutes qui restent, donc je suis pas loin d'être en accord avec lui. Justement, moi, je pense que le problème, c'est que nous, on a fait un modèle français qui est un modèle attractif, justement, un modèle touristique, c'est-à-dire on a vraiment survalorisé le tourisme et on s'était dit justement en ayant une vitrine Paris attractive, on va pouvoir faire venir plein de touristes dans notre pays et ça va être génial, les gens vont venir dépenser de l'argent aux Champs-Élysées,
etc. Ils ont bien augmenté, d'ailleurs, les prix. Hein.
Le problème, c'est que quand on dit ça, on dit qu'il faut faire les Jeux Olympiques. Moi, j'étais plutôt pour faire les Jeux Olympiques parce que c'est quelque
chose.
C'est quelque chose qui était une belle vitrine. C'est quelque chose qui est bien, et surtout que en plus nos sportifs sont très bons et on devrait récupérer beaucoup de médailles parce qu'on a des joueurs et des sportifs qui sont des talents générationnels, effectivement.
Ah, mais je vous parle même pas de sport, moi.
Sur l'organisation, pour le coup, il y a absolument tout à revoir. La question de la contractualisation avec les les sites sportifs n'est pas forcément tout réglé. Vous avez le sujet de l'insécurité, l'insécurité des sites, l'insécurité de la ville de Paris, l'insécurité de la cérémonie d'ouverture. Et moi, je prends juste un exemple très marquant, c'est que nous, on a regardé dans notre think tank, on a comparé les cérémonies d'ouverture, notamment projetées par la France, et celles des Jeux Olympiques de Londres 2012, et encore pire, Pékin 2008, eh bien on voit que la France, en termes de symbole, sera vraiment catastrophique. On envoie un très mauvais signal parce que notre cérémonie d'ouverture n'atteindra pas celle qu'avait, rappelez-vous quand même, de Londres 2012 avec la reine Elisabeth, etc. Le Royaume-Uni avait montré au monde entier qu'ils étaient capables d'entrer dans la modernité.
Le terrorisme est quand même un peu passé par là, ce qui nous complique aussi la tâche.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé des risques terroristes aussi aux yeux.
Je voulais juste, il nous reste 3 minutes 30, c'est pas énorme, mais je voulais vous faire réagir sur les blocages qui se poursuivent à Sciences Po. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation politique? On a vu hier le coup d'éclat de François-Xavier Bellamy, candidat LR aux européennes, avec cette altercation en face de Louis Boyard. Glucksmann ce matin, Raphaël Glucksmann, hein, qui juge qu'il ne faut pas expulser les étudiants pro-palestiniens. Alexandra Spinner, un petit tour de table.
Non, mais attendez, c'est une formule totalement délirante. Évidemment, Sciences Po accueille des étudiants étrangers. Ils ont la chance de bénéficier de l'enseignement de ce qui était jusque-là une institution de l'enseignement français. Ils ne respectent pas les règles. Évidemment qu'ils doivent être reconduits chez eux. Ça me paraît évident. Écoutez, on ne va pas se laisser terroriser par une minorité agissante. C'est insupportable. Vous avez des étudiants qui passent leur examen. Regardez dans quelles conditions ils le font. Je vous rappelle qu'on a là quand même des décérébrés, des espèces de débiles qui ne comprennent rien à la situation du Moyen-Orient et qui font du Hamas leur héros. Enfin, c'est insoutenable. On ne peut pas accepter ça.
Des étudiants étrangers qui viennent en France pour insulter la France, pour moi, c'est suppression du visa directement dans l'avion.
Il n'y a pas que des étudiants étrangers.
Vous avez aussi une prof dont il faut quand même parler, Nassira Guenif Souliamas. Qui soutient un soutien d'Assa Traoré, qui est un soutien du parti des indigènes de la République, qui est un soutien du terroriste Georges Abdallah, et qui ose mener ses étudiants dans cette impasse absolue. Je suis horrifié.
Le problème à Sciences Po, moi j'y étais, donc on peut témoigner, c'est que Sciences Po est gangréné par l'islamo-gauchisme et le wokisme.
Mais c'est une minorité. Mais 54% des étudiants, il y avait eu un sondage, avaient voté pour LFI, cher Alexandra Spinner.
54% pour LFI et 70% sur tout l'ensemble des partis de gauche, alors qu'ils étaient moins de 50% il y a encore 20 ans. Donc il y a vraiment une mutation sociologique très forte à Sciences Po, qui justement crée un climat de terreur intellectuelle, parce que justement, vous avez un certain nombre d'idéologies qui sont absolument plus abordées dans les cours, que ce soit le néolibéralisme en économie ou même la théorie de Samuel Huntington, le choc des civilisations en géopolitique, exactement. Et pourquoi je dis gangréné? Parce que vous avez à la fois les étudiants, mais vous avez aussi le corps enseignant, très fort, et aussi l'administration.
Le problème, il est là. L'administration inexistante.
Hein. Et n'oublions pas, en fait, que le poisson pourrit toujours par la tête. Et hier, on a vu que les professeurs, hier, étaient allés soutenir les étudiants bloqueurs. Aujourd'hui, il y a un problème de gestion de Sciences Po, que ce soit au niveau administratif et professoral. Il faut tout raser et repartir sur des bases saines. C'est une expression, bien sûr, hein, il ne faut rien raser.
En complément de ce qui vient d'être dit, moi, je l'ai rappelé, quel que soit ce qu'on peut penser de Blanquer, il disait, j'ai été étudiant à l'étranger, il y a des règles, et si je les avais enfreint, eh bien, on m'aurait renvoyé. Et moi, je vais vous dire, dans bien les pays, en droit, on vous supprime votre visa, ordonnance d'expulsion, et vous ne pouvez plus vous représenter dans le pays pendant 5 ans.
Et souvenez-vous, comment la candidature de Blanquer et de Dominique Régnier ont été traitées par le conseil d'administration de Sciences Po.
Absolument. Hein, donc, voilà, donc oui, pour répondre
qui
à votre...
Qui on cite maintenant Nadjo Belkacem.
Pour répondre à votre question,
oui, c'est inacceptable. Oui, il faut... pour moi, je suis pour l'expulsion des étudiants fauteurs à l'excès excès de troubles. Le débat démocratique peut se donner, mais pas dans ce contexte-là. Donc la réponse, c'est oui.
On en reparlera une autre fois, je sens que ça vous inspire. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir été avec nous et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. On va parler de Vladimir Poutine qui a été investi hier pour son 5e mandat. C'est reparti pour quelques années.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Si tu dors mal à cause des stores en panne,
Service Store trouve la pièce qui te dépanne.
2000 pièces made in France ou en Europe.
Moteur de store, volet roulant toujours au top.
Alors pour un sommeil réparateur,
répare tes stores chez un leader.
Connecte-toi sur servicestore.com.
Servicestore.com, choix et qualité,
c'est tout comme.
Sud Radio Médoc.
103.2.
Sud Radio.
Il était une fois, un gentilhomme philosophe se demandant être ou ne pas être ouvert un jour férié. Eh, balèze la question. Mais puisque tous les magasins Aldi sont ouverts aujourd'hui, mercredi 8 mai, il avait sa réponse et à lui les bonnes affaires. Y aller maintenant ou maintenant ? Telle est la véritable question. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Trouvez le magasin le plus proche de chez vous et plus d'infos sur aldi.fr.
12h30.
Allez, échauffement.
12h32. 12h33. Go.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins.